le grain de sable. Pensée globale. Agir local. Le grain de sable. Bienvenue sur Le Grain de Sable, l'émission d'Attaque sur Radio Canus 102.2. Alors aujourd'hui, on reçoit Michel Christian, qui est à Attaque-Rhône et qui est historien, pour nous parler de l'Europe. Alors l'Europe qui est contestée, quittée ou a changé. Et donc l'idée, c'est de remettre un peu ça en perspective, notamment en revenant aux origines et aux fondements de l'Europe et notamment de la construction de la communauté européenne.
Merci. Alors oui, effectivement, je pense que quand on parle de l'Union européenne aujourd'hui, c'est intéressant de commencer par l'histoire, surtout qu'elle s'écrit pas forcément comme on croit toujours. Je dirais qu'il y a plusieurs histoires de l'Union européenne. La première histoire, c'est un peu une histoire sainte, qui commence avec, dans les années 50, la légende, les pères fondateurs, Robert Schuman, Gasperi, Paul-Henri Spaak pour la Belgique, Adenauer pour la République fédérale d'Allemagne, qui crée la communauté économique du charbon et de l'acier, puis ensuite la communauté économique européenne par le traité de Rome en 1957. Et puis c'est une chronologie en fait qui se raconte avec des victoires ponctuelles et puis ensuite des périodes de crise dont l'Union européenne parvient toujours à triompher. Donc période de crise dans les années 70, mais heureusement on a l'acte unique en 1986, puis le traité de Maastricht en 1992. Et puis ensuite, nouvelle difficulté parce que l'Europe s'élargit et qu'il faut intégrer les nouveaux membres, combiné à l'échec du référendum en 2005, mais encore une fois l'Union européenne triomphe et parvient à établir le traité de Lisbonne en 2009. Et donc, on aurait atteint comme ça une sorte de summum démocratique dans l'Union européenne. Ça, c'est pour l'histoire sainte.
Et ces triomphes, est-ce que justement, c'était toujours des bonnes choses? Est-ce que ça allait dans le bon sens?
Justement, c'est ça. Le problème, c'est de savoir comment on peut relire cette histoire. Parce que, à côté de l'histoire sainte, je dirais qu'il y a une espèce de contre-histoire qui ne fait que reprendre le contre-pied de l'histoire sainte et qui consiste à dire que l'Union européenne et avant elle la communauté économique européenne n'a toujours été qu'une construction néolibérale. Et là, ça devient compliqué parce que quand on lit le texte du traité de Rome en 1957, il est vrai qu'on a affaire à un texte authentiquement néolibéral. La différence, le problème, c'est que ce texte n'a jamais vraiment été appliqué dans les années 60 et dans les années 70, et c'est seulement à partir de l'acte unique qu'il commence vraiment à être appliqué dans son esprit. Puisque jusque dans les années 60 et 70, on a des politiques économiques keynésiennes dans les États qui limitent beaucoup, finalement, la véritable mise en application de ce traité. Donc voilà, il faut prendre les choses avec nuance, et puis surtout, il faut rester attentif à d'autres ruptures qui sont jamais racontées dans l'histoire et qui sont importantes. Il y en a certaines qui sont connues, comme par exemple ce qu'on appelle la crise de la chaise vide en 1965, quand De Gaulle a voulu retirer le représentant français de la communauté économique européenne pour bloquer le mécanisme de prise de décision. En faisant ça, il a institué de fait le vote à l'unanimité.
En tout cas, c'était des enjeux qui n'étaient pas forcément économiques, c'était vraiment des enjeux, enjeux de décision, de démocratie ou du moins de prise de...
C'était des enjeux politiques et qui avaient des vraies conséquences parce qu'aujourd'hui, ce fonctionnement à l'unanimité limite beaucoup la transparence de la prise de décision. Puisque comme pour qu'un texte passe, il faut que l'unanimité soit atteinte, ça pousse en fait les États à négocier en catimini, en secret et à passer à un certain nombre de marchandages qui reste secret.
Ça, c'est... On retrouve le côté un peu technocratique qu'on
exactement, reproche. Exactement. Une autre date qu'on oublie beaucoup, c'est par exemple 1964. Si je vous dis 1964, vous ne voyez pas du tout le rapport que ça a avec la construction européenne. Et pourtant, c'est en 1964 que la Cour de justice se donne le droit de juger d'un cas qui lui est soumis par un particulier. Ce qui n'était pas prévu dans les textes à l'origine et ce qui instaure de fait un droit d'essence fédérale. Puisque à l'origine, seuls les États étaient autorisés à demander à la Cour de justice de trancher un cas ou un autre. À partir du moment où un particulier le fait, on est dans un schéma qui ressemble un peu à la Cour suprême des États-Unis. Et c'est une sorte de coup de force juridique qui a réussi à la longue et qui fait qu'aujourd'hui, on a un droit européen qui s'impose à l'ensemble des États membres, ce qui n'était pas prévu dans le texte d'origine en 1957.
Et ce champ de la justice, il concerne l'économie ou il est beaucoup plus vaste ?
Il concerne avant tout l'économie. Puisque c'est ça qui constitue le cœur des compétences de la CE, puis ensuite de l'Union européenne, mais de proche en proche, avec une interprétation de plus en plus large de l'économie, la Cour de justice européenne en arrive à prendre des décisions dans des domaines qui concernent le droit social, comme le droit de grève par exemple, avec des arrêts en 2007 et en 2008 qui ont eu une forte influence négative sur le droit de grève. Et puis il y a une dernière date, beaucoup plus récente, proche de nous, c'est 2008. On a l'impression que l'histoire s'arrête en 2009 à cause du traité de Lisbonne, alors qu'en fait, depuis 2009, en réaction à la crise, on a une série de décisions qui ont été prises entre les États et qui ajoutent un nouveau traité, un ensemble de textes qui forment un ensemble à côté des traités existants. Donc de manière totalement extra-juridique, les États ont accepté un certain nombre de règles qui limitent beaucoup la liberté budgétaire des États et qui donnent à la Commission un rôle de contrôle en amont des budgets. Et ça, c'est extrêmement grave parce que ça touche vraiment aux prérogatives des États et on en subit les conséquences au quotidien.
C'est notamment ces dépenses sociales.
Exactement. Et c'est ça qui justifie les politiques d'austérité au niveau des États. Elles sont renvoyées au niveau de l'Union européenne, alors qu'en fait, elles correspondent seulement à des accords que les États ont pris entre eux au préalable.
En fait, pour le citoyen, la difficulté, c'est de se retrouver dans un certain nombre de textes et avec ce qu'on appelle la gradation des normes. Donc il y a des traités, il y a des recommandations, il y a des notes techniques. Donc finalement, on ne sait jamais trop sur quel texte on peut s'appuyer pour comprendre telle ou telle réglementation liée à notre Union européenne, en fait. C'est la difficulté pour nous de se repérer finalement dans ce maquis de textes avec effectivement des prérogatives différenciées en fonction de la nature même du texte. Donc il y a les traités, il y a les annexes, il y a la réglementation, il y a les directives, il y a ensuite la jurisprudence effectivement européenne, il y a aussi la jurisprudence maintenant de la CEDH qui quelquefois pour nous est très importante, la Cour européenne des droits de l'homme, qui est importante pour nous en termes par exemple de droit d'expression. Mais c'est vrai que c'est difficile pour nous, simples citoyens, de se retrouver dans ce maquis juridique en fait.
C'est très compliqué parce que non seulement ce qu'on appelle le droit communautaire, qu'il faudrait maintenant appeler droit de l'Union européenne, est extrêmement complexe à cause de la différence entre règlement et directive, à cause de l'évolution permanente depuis le début des institutions européennes. Et c'est compliqué aussi parce que depuis le début des années 2000, il y a une nouvelle sorte de droit qui apparaît, de nouvelles manières de légiférer qui sont en quelque sorte extra-juridiques et qui consistent par exemple pour les États à se donner des objectifs et ensuite à se mesurer les uns les autres par rapport à ces objectifs sous le contrôle de la Commission européenne. On n'est pas tant dans un mode, je dirais, de construction juridique, de production du droit que de gouvernance en fait. Et même c'est pleinement assumé puisque la Commission européenne met en avant elle-même ce terme et ça se rapproche en fait beaucoup des méthodes qui sont utilisées dans le domaine du management, le benchmarking qui consiste à classer systématiquement les États par rapport à des objectifs qui eux ne sont pas remis en question, ou alors le peer review qui consiste pour les États à se classer eux-mêmes et qui sont en fait des techniques de management directement importées de l'entreprise.
Et ces objectifs que les États s'imposent, justement, c'est pas la même chose qu'une directive ou un règlement qui est transposé dans la loi. C'est même pas des choses qui rentrent dans les
Non, dans c'est ce qu'on appelle. Internes. Exactement, c'est ce qu'on appelle du soft law, c'est-à-dire en fait une espèce de loi molle qui ne s'applique pas vraiment comme un texte juridique, mais qui fait pression et qui fait une pression lente sur les États et qui finit par produire des effets. Hein. C'est de cette manière-là, par exemple, qu'un certain nombre d'États ont démantelé leur droit social depuis le début des années 2000, parce que dès le début des années 2000, dans le cadre d'une démarche qu'on appelle la méthode ouverte de coordination, les États se sont donné comme objectif d'arriver à un modèle commun retraite à l'échelle de l'Union européenne, et c'est-à-dire qu'ils ont ce modèle-là à l'horizon et qu'ils doivent tendre vers ce modèle. Ils se retrouvent régulièrement entre eux, toujours sous la gouverne de la Commission européenne, pour évaluer les progrès entre guillemets qui sont réalisés vers cet objectif. Et je dirais que au bout du compte, ça marche, ça produit des effets. Donc que ça ne soit pas purement rigoureux au plan juridique n'empêche pas cette manière de faire de produire des effets.
Il n'y a même pas de protection juridique, parce qu'on peut jouer dans la surenchère à vouloir être l'employé modèle, quoi.
Exactement, on est dans un domaine extra-juridique.
Donc tout ceci, en fait, c'est quand même très... par rapport à ce qu'on appelle la démocratie, c'est un danger permanent, finalement, pour la démocratie européenne. Que ce soit dans le mode de construction européenne, puisqu'on tu rappelais tout à l'heure l'étape de 2005... en tout cas en France, il y a eu un vote majoritaire de non, qui n'a pas été du tout appliqué, en fait. On n'a pas tenu compte. Et puis depuis les différentes crises, la crise financière, 2008, etc., s'ajoutent des choses qui finalement limitent le pouvoir des citoyens au sein même de l'Union européenne et au niveau même de chaque État, du coup.
Oui, exactement, ça pose un gros problème, parce que structurellement, depuis l'origine, et c'est devenu de plus en plus grave au fur et à mesure que les pouvoirs de la CE puis de l'Union européenne se sont accrus, les personnes qui décident, qui sont des représentants nationaux, des représentants des exécutifs nationaux, sont amenés à légiférer au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire en fait sans en avoir le mandat, avec souvent un discours à double niveau qui consiste à se plaindre au niveau national des décisions qui ont été prises au niveau de l'Union européenne, alors même que ces représentants ont été les acteurs de ces décisions.
Oui, parce qu'on est bien à l'unanimité, donc c'est que tout le monde à un moment donné a dit oui.
Exactement. Et l'autre problème, c'est que depuis 2008, il y a vraiment une rupture en 2008 dont on n'a pas encore bien saisi la portée. On a un ensemble de textes, de décisions qui ont été prises dans le domaine budgétaire, mais qui ont mis en place ce qu'on appelle par exemple le mécanisme européen de stabilité financière, qui est censé renflouer les finances des États en difficulté, qui a mis en place également l'Union bancaire européenne, qui est un système de supervision de l'ensemble des banques européennes. Et ben, toutes ces institutions ou tous ces textes qui en fait touche au cœur de la souveraineté politique de chaque État, et bien tous ces textes ont été adoptés absolument sans aucun contrôle démocratique. À aucun moment on a demandé leur avis aux citoyens, alors même que ça a de véritables conséquences sur leur vie quotidienne et même, je dirais, sur le corps politique. Il y a plus d'autonomie du corps politique dans ce cadre-là.
Est-ce qu'il y en avait, j'estime qu'il y en avait davantage avant, qu'il y avait une vraie démocratie, un débat entre les États qui constituent l'Europe
Non, pas vraiment.
Européenne.
Pas vraiment, puisque comme je le disais auparavant, dans le système d'avant 2008, il y avait déjà ce fonctionnement qui constitue un vice démocratique de faire travailler au niveau européen des gens qui sont élus au niveau national. Ainsi, alors évidemment, il existe le Parlement européen, hein, qui existe depuis 1979, qui est élu au suffrage universel et dont le rôle, c'est, ça il faut bien le reconnaître, accru depuis sa création, si bien qu'aujourd'hui, une grande partie des décisions, même la très grande majorité des décisions, elle est prise conjointement entre le Parlement européen et les ministres de chaque État membre. Sauf que depuis 2008, s'est ajouté un ensemble de nouveaux textes dont j'ai bien dit qu'ils ont été adoptés totalement en dehors des traités actuels. Donc là-dessus, le Parlement n'a rien à dire.
Donc ils ne lui sont pas du tout soumis, par exemple.
Pas du tout, ni même pour avis.
Et concernant quand même sur la démocratie, plutôt l'idée du débat qu'il peut y avoir au sein des pays. On en a eu, par exemple, il y a eu en 2005, sachant que j'imagine que dans les personnes qui sont venues débattre avant le référendum, beaucoup étaient déjà ou intéressés ou convaincus, mais on a quand même un peu élargi le débat. On sent quand même que là, c'est quand même beaucoup moins le cas, même si c'est une question qui a été évoquée aux élections présidentielles, mais on n'est plus dans un... Et même quand on peut penser au Brexit ou à la Grèce, on n'a plus forcément aussi des débats qui s'installent.
Alors c'est très difficile parce que c'est très difficile de parler politiquement de l'Europe parce qu'il n'y a pas d'espace public européen, ou alors il y a un espace public européen embryonnaire à cause des différences de langue, à cause de la barrière de la langue, mais aussi à cause, je dirais, des cultures politiques qui sont quand même assez différentes d'un État à l'autre. Et débattre de l'Europe dans un pays ne veut pas dire forcément qu'on arrive à en parler du point de vue européen.
Il n'y a pas un espace de débat européen citoyen. Voilà,
il est difficile, il existe de manière embryonnaire, mais d'ailleurs, dans l'ensemble du spectre politique, il existe à gauche comme à droite des groupes embryonnaires qui arrivent à penser la question européenne au niveau européen et pas comme un enjeu national simplement. Alors ensuite, ce que ça montre, pour reprendre ce que tu disais à l'instant, c'est que on a réussi à établir une construction économique, mais pas du tout une construction politique. Et l'exemple de la Grèce le montre très bien, puisque on a réussi à faire un marché commun, mais quand il s'agit de réfléchir à la solidarité éventuelle qui pourrait exister entre les différents États membres, on voit bien qu'on achoppe sur quelque chose, hein, puisque comment la Grèce en est-elle arrivée là à l'origine? Il y a la monnaie unique qui, telle qu'elle existe aujourd'hui, favorise avant tout l'Allemagne et les exportations allemandes. Qui a acheté en grande quantité les exportations allemandes? Ce sont beaucoup les États du Sud. Mais dans ces États du Sud, les populations n'étaient souvent pas solvables. Donc qu'est-ce qu'elles ont fait? Eh bien, elles se sont endettées, et ça a bien arrangé l'économie allemande, puisqu'en s'endettant, eh ben, elles ont réussi à acheter les biens produits en Allemagne. Sauf qu'au bout d'un moment, la dette est devenue intenable, et plutôt que d'avoir une vision, je dirais, générale de la situation, les dirigeants allemands, puisque c'est bien eux qui sont responsables de cette situation, ont préféré culpabiliser la Grèce, la rendre coupable de la situation dans laquelle elle s'était mise, donc avec un discours très moralisateur sur le fait qu'il faut payer ses dettes, que c'est mal de ne pas rembourser, que les Grecs sont paresseux, un discours profondément raciste, en fait. Donc les dirigeants allemands ont refusé de la sorte d'élargir une vision qui pourtant serait dans leur propre intérêt. Au lieu de ça, ils essayent de faire payer à la Grèce jusqu'au dernier centime de sa dette. Et pour ça, doivent recourir à de véritables mécanismes d'oppression qui, à mon sens, ont aussi comme conséquence de ruiner totalement la légitimité de l'Union européenne comme projet politique. Parce qu'alors là, on n'est même plus dans l'absence de solidarité, on est dans la mise en place d'un système d'oppression d'un État d'un État par l'ensemble des autres États.
Et là, on parlait de différence de culture et non solidarité. On a vu aussi qu'avec, quand la Grèce a été effectivement considérée comme irresponsable, on avait des pays nouvellement européens qui avaient effectivement dû se serrer la ceinture, qui disaient, mais pourquoi elle, on la traiterait bien, alors que nous, on nous a demandé
exactement
de faire des sacrifices. Donc même parmi les plus pauvres, on a réussi à créer des rivalités, des tensions et une absence complète de solidarité.
Moi, je crois que c'est c'est une volonté politique de faire payer le mauvais élève ou de le punir par des mesures drastiques, l'austérité plus, la privatisation d'un certain nombre de choses. On a même dit à un moment donné, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est... On aurait presque pu le penser, je parle pas de complot hein, quand je vais dire ça, mais que finalement la Grèce était le pays en expérimentation à grandeur nature d'une politique ultralibérale, où avec une mise à bas de tout ce qui était service public, une fermeture des services publics, des mécanismes de solidarité mis à mal ou supprimés, des privatisations, des ventes de terrains, de ports à des sociétés privées. On a bien parlé d'expérimentation grandeur nature, finalement, d'une politique ultralibérale plus.
C'est difficile à dire parce que une politique ultralibérale au carré, ça présuppose d'avoir une vision à long terme. Moi, l'impression que me donne la situation en Grèce, c'est en fait un court-termisme consternant. On a l'impression que tant que la Grèce peut payer, alors on la fait payer. On sait très bien qu'elle ne pourra jamais payer l'ensemble de ses dettes. Et l'enjeu derrière tout ça, qu'est-ce que c'est ? C'est que les banques, notamment allemandes mais aussi françaises, veulent récupérer le maximum de leurs dettes avant l'écroulement final, quand la Grèce sera mise effectivement en défaut de paiement ou qu'on fera une remise de dette générale. Et pourquoi ? C'est parce que, en fait, une partie de la retraite des Allemands aujourd'hui a été capitalisée et dépend également du fait de la capacité de la Grèce à rembourser. C'est-à-dire que la différence n'est pas seulement entre pays riches, dits riches comme l'Allemagne, et pays plus pauvres comme les pays d'Europe centrale ou la Grèce. La différence, elle est aussi dans les sociétés. C'est-à-dire que pour obtenir le niveau d'exportation que l'Allemagne a réussi à atteindre, une partie de la population allemande, une partie des travailleurs, a dû s'appauvrir. En résultat des politiques de Schröder qui ont été menées dans les années 2000, une partie des retraites a été capitalisée et aujourd'hui les Allemands les plus pauvres ont un intérêt objectif à ce que la Grèce rembourse ses dettes, et le jour où elle ne pourra plus les rembourser, eh ben, il y aura des difficultés en Allemagne même. Et ça, c'est un enjeu très important quand on pense par exemple aux réélections successives d'Angela Merkel. Si elle est si régulièrement réélue, c'est parce que les Allemands ont peur pour leur retraite.
D'accord, donc en fait, eux, ils sont obligés, voilà, ce court-termisme crée aussi le fait qu'on reproduit le système.
Exactement.
Dans lequel on est.
Il y a une véritable aliénation des Allemands les plus pauvres eux-mêmes, qui vivent avec le sentiment qu'ils se sont serrés la ceinture et que maintenant, c'est les Grecs qui doivent payer.
On fait une pause musicale ?
Inside myself.
d'écouter Europop de l'Irlandais Divine Comedy. Et on, vous êtes toujours sur l'émission Le Grain de Sable. On retrouve notre invité Michel Christian et on parle de l'Europe, hein, comme aussi le titre de la chanson le rappelait. Donc on a parlé de la, un peu de des origines, du fondement, un peu d'histoire de la communauté européenne, en revenant notamment sur les questions de décision et de démocratie et de débat. Et on a beaucoup parlé d'économie, mais c'est vrai qu'au départ, en plus, ça s'appelait quand même la communauté économique. Mais on entend aussi souvent un discours pour défendre le principe de l'Union européenne, comme quoi, grâce à l'Union européenne, on a la paix. C'est un discours, voilà, il y a eu deux guerres mondiales et on a réussi à créer un climat stable et long de paix. Et est-ce que c'est une vraie réalité ou est-ce que ça aurait pu se faire sans ? L'Europe n'est pas seul pays du... Alors, il y a des guerres dans d'autres pays, mais l'Europe n'est pas le monde entier. Hein.
Alors, la réalité de la paix en Europe, elle est indéniable depuis 1945. Si on laisse de côté certains conflits qui n'ont pas été marginaux, comme la Yougoslavie dans les années 1990, quand même. Hein. Par contre, là où on peut s'interroger, c'est de savoir si c'est la construction européenne qui a produit cette paix, ou si c'est pas plutôt la construction européenne qui est le produit de cette paix. Parce qu'en fait, ce qui a construit la paix en Europe à partir de 1945, c'est en fait la guerre froide. C'est la guerre froide qui a produit la paix en Europe pendant qu'elle était en train de ravager le monde ailleurs. Et c'est donc le fait que les deux superpuissances, l'URSS et les États-Unis, ont réussi à s'entendre sur le fait qu'en Europe, ça ne bougeait plus. C'est ça qui a permis la stabilité en Europe, et la construction européenne, dans un premier temps, n'est que le produit de cette décision des deux super grands. On peut même dire que des organisations comme la Communauté économique du charbon et de l'acier, qui a été fondée en 1950, donc ce qu'on appelle la CECA, sont des organisations de guerre froide. Hein, et même, on peut dire, 1950, on élargit un peu la focale, c'est le début de la guerre de Corée, énorme besoin d'acier dans l'industrie des États-Unis pour fabriquer des armes, pour aller mener l'offensive en Corée. Donc du coup, il y a un besoin d'acier très important et on mobilise les capacités de production de l'Europe au moment même où la CECA est fondée. Donc en fait, la CECA et la construction européenne s'inscrivent pleinement avant tout dans un contexte de... guerre froide. Il s'agit pour les alliés des États-Unis en Europe de s'organiser les uns avec les autres. Il s'agit pour les anciens ennemis qui étaient la France et l'Allemagne de faire taire leurs inimitiés réciproques pour créer cette stabilité qui est voulue avant tout par les dirigeants des États-Unis. Et c'est pour ça que les dirigeants états-uniens sont présents à chaque étape de la construction, de ce qu'on appelle la construction européenne, très fortement en 1950 au moment de la CECA.
De quelle manière ? Enfin, tu parles de présence.
Ah bah, ils sont présents dans les, ils sont présents, ils font pression par l'intermédiaire du réseau diplomatique sur les diplomates et les ministres, notamment français, puisque c'est surtout en France qu'il y a des oppositions pour se réconcilier avec l'Allemagne dans le cadre de cette construction européenne. Les États-Unis font pression en 1952 quand on essaye de mettre en place ce qu'on appelle la communauté européenne de défense, ce qu'on appelle souvent à tort une armée européenne, qui va échouer finalement en 1954. On l'appelle à tort une armée européenne parce qu'en fait il s'agissait de mettre en place un corps commun avec des divisions des différents pays. Mais sous direction de l'OTAN. Donc il ne s'agit pas d'une armée européenne. Il ne s'est jamais agi d'une armée européenne. La réalité, c'est que c'était un moyen de remettre sous les drapeaux des soldats allemands. Et c'est ça qui était difficile à accepter pour les Français et qui a mené finalement à l'échec de la communauté européenne de défense. Donc quand on regarde dans le détail, cette construction européenne, en fait, elle est pleinement inscrite dans son contexte d'époque, qui est la guerre froide. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le temps, on a oublié ses origines et on a construit une sorte de mythologie des origines de l'Europe, comme si c'était l'Europe qui avait fabriqué la paix, alors que c'est la paix imposée par les États-Unis et l'URSS qui a en fait produit cette construction européenne. Et ça, c'est totalement oublié aujourd'hui quand on regarde l'histoire de l'Union européenne. Donc, à l'origine, il y a la paix qui a été voulue par les pères fondateurs, et puis il y a cette espèce d'élargissement nécessaire, comme si c'était une nécessité historique toujours plus vers l'Est, ce qui est historiquement un contresens total, puisque cette construction européenne, elle était faite avant tout pour organiser entre eux les alliés de l'Ouest contre les pays de l'Est. Donc dans l'élargissement vers l'Est...
Oui, dans le côté guerre froide, il y avait quand même sur les fonts baptismaux, c'était les États-Unis.
Exactement. Et donc aujourd'hui, dans l'élargissement toujours plus loin vers l'Est, il y a l'oubli des origines historiques de la construction européenne qui sont bien dans la guerre froide.
Et d'ailleurs, aujourd'hui, comment se passe cette espèce de lien entre Europe et l'Est ?
Pas forcément très bien. Dans un premier temps, il y a eu un espèce de malentendu parce que on pourrait dire que la majeure partie des pays d'Europe de l'Est, devenus maintenant pays d'Europe centrale, ont souhaité, il y avait une vraie popularité de l'adhésion à l'Union européenne dans les années 2000, parce que c'était surtout une manière de tourner la page du passé, de dire qu'on n'a plus rien à voir avec la Russie, mais que dorénavant, on est européen et qu'on appartient à l'Europe, donc avec des motivations plutôt de nature culturelle, un sentiment d'appartenance culturelle à l'Europe. Et là où il y a malentendu, c'est que ce sont des pays qui par ailleurs sont restés extrêmement atlantistes, c'est-à-dire très proches des États-Unis, et qui se sont opposés à toute forme d'organisation, d'intégration politique poussée. Ce sont également des pays qui ont payé économiquement et socialement très cher leur adhésion à l'Union européenne et qui aujourd'hui s'en sortent, de manière très contrastée. Les uns par rapport aux autres. Et très dernièrement, l'évolution la plus récente, se révèle assez inquiétante avec des pays comme la Hongrie, des pays comme la Pologne, qui mettent progressivement en place des régimes, on peut dire autoritaires dans le cas de la Hongrie et à tendance autoritaire dans le cas de la Pologne. Et ça, c'est très important parce que à partir dans les années 80, quand l'Espagne, quand le Portugal, quand la Grèce sont entrés dans l'Union, dans la communauté économique européenne, ils y sont entrés en même temps qu'ils devenaient des démocraties. Donc on avait l'impression que la communauté économique européenne devenait une machine à créer de la démocratie.
Ils ont moins fait de sacrifices. Il semble quand même que pour ces pays-là, l'Europe les a plus aidés économiquement.
Oui,
aussi.
C'est vrai, on pouvait dire qu'ils peut-être partaient de moins loin et aussi parce qu'ils étaient moins nombreux dans un contexte où il y avait peut-être plus de moyens de les aider. Donc tout ça est vrai, mais en tout cas, aujourd'hui, on a l'impression qu'au lieu d'être un instrument de production de la démocratie, comme on a pu en avoir l'impression dans les années 80, on a l'impression qu'aujourd'hui, l'Union européenne produit de l'autoritarisme au niveau national. Et dans les textes, rien n'existe pour savoir ce qu'on peut faire d'un pays membre de l'Union européenne qui deviendrait une dictature.
Qui ne remplirait plus les conditions pour y rentrer, s'il y était pas, par exemple.
Sauf que la Hongrie est membre de l'Union européenne. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de la Hongrie si elle devenait un régime franchement autoritaire ? Rien n'existe dans les textes pour guider politiquement les États membres au cas où l'un d'eux deviendrait franchement une dictature. Et ça pose un vrai problème aujourd'hui.
Parce qu'il doit y avoir aussi un petit peu cet imaginaire qu'on ne pouvait que progresser en rentrant dans l'Europe.
Oui, exactement. Mais c'est un imaginaire libéral qui consiste à dire que si on supprime les barrières commerciales, si on crée des liens économiques entre les pays, alors forcément ça produira de la paix. On se rend compte qu'en fait, c'est pas ce qui s'est passé. On se rend compte qu'en fait, la libéralisation générale de l'économie et des services a plutôt atomiser les populations avec des phénomènes qu'on connaît également en France, a plutôt atomisé les populations et les a amenés à se retirer sur des valeurs nationales. Un certain nombre d'hommes politiques se sont emparés de ces motivations et ont réussi à parvenir au pouvoir pour certains d'entre eux.
Mais la montée des extrêmes droites, des mouvements souverainistes, c'est sans doute dû aussi. Effectivement, à chaque fois, il y a eu des crises, tu le rappelais tout à l'heure. À chaque fois, l'Europe s'en sort et avec un nouveau discours. On va améliorer les choses, on va faire mieux. À chaque fois, on vend une plus belle Europe, une Europe optimiste, une Europe de solidarité, une Europe... mais en fait, à chaque fois, on accentue la concurrence entre les salariés, la concurrence entre les États sur les sur l'implantation des entreprises. Donc finalement, ce sont bien les choix qui sont aussi des choix politiques de cette Union européenne qui aujourd'hui bouscule les populations et leur font sans doute regretter peut-être cet espace qui n'est qu'un espace marchand ou qui ne correspond pas à leurs rêves, en tout cas à leur désir d'Europe avec de l'amélioration du progrès social, du progrès dans l'éducation, etc. L'Europe aujourd'hui, elle a plutôt favorisé une forme de régression dans un certain nombre de ces domaines.
Bah, là encore, le bilan est pas totalement noir. Il y a un vrai phénomène social qui est un vrai processus massif qui est en train de se produire. Hein. C'est le programme Erasmus avec ces milliers d'étudiants qui se rencontrent, qui se marient. Est-ce que vous savez que 27% des étudiants qui un jour ont participé à un programme Erasmus sont en couple avec une personne qu'ils ont rencontrée pendant cet Erasmus.
Oui, oui.
Donc ça veut dire des milliers de bébés Erasmus à travers l'Europe. Donc il y a quand même une réalité, culturelle de cette Europe, mais il faut avoir une vision aussi, je dirais, sociologique de la situation. C'est-à-dire que c'est pas toutes les classes sociales qui sont concernées par ce phénomène, et il y a une appropriation de la réalité européenne qui est très différente en fonction des classes sociales. En gros, les catégories populaires ne voient pas, n'identifient pas ou identifient mal le niveau européen, le considèrent comme quelque chose d'extérieur, voire de menaçant, alors que les classes moyennes ou les catégories supérieures l'identifient mieux, voient comment ils peuvent l'utiliser, en retirent des gains et donc s'y identifient plus. Sauf que, même là, il commence à y avoir un discours critique qui émerge, et c'est ça, à mon sens, qui explique qu'en 2005, en France, le TCE, lors du TCE, le non l'a emporté. C'est parce que il y a une fraction des classes sociales, plus instruites, qui normalement étaient déterminées à voter plutôt oui, et avaient voté oui lors du traité de Maastricht en 1992. Et bien en 2005, on votait non, avec un discours rationnel, cohérent, critique, organisé, qui consistait à dire on n'est pas contre l'Europe, mais on est contre cette Europe-là et pour une autre Europe. Et c'est ça qui est nouveau. Il y a des sociologues qui ont étudié ça et qui ont dit qu'on assistait à ce qu'on appelle la fin d'un consensus permissif. C'est-à-dire l'idée que on laisse la construction européenne se faire tant qu'on en retire des gains. Et puis au bout d'un moment, on a l'impression qu'on n'en retire plus de gains, donc ce consensus permissif se brise.
Ce qui veut dire que c'est toujours une question d'intérêt. Et on n'est pas plus dans la solidarité.
Une question d'intérêt ou de vision du monde. C'est-à-dire que quand on a l'impression, quand on voyage facilement, quand on apprend des langues facilement, quand vos enfants étudient à l'étranger et reviennent avec un conjoint étranger, on peut dire que tout ça va dans le sens de vos intérêts, mais cela construit aussi pour vous un imaginaire européen positif. Ça s'appelle l'idéologie.
Ça permet effectivement de déconstruire des frontières, mais en même temps, elles reviennent rapidement sur le plan économique, sur le plan fiscal. Donc, il y a effectivement tout cet apport de la jeunesse, Erasmus, etc. Même, je pense que dans le domaine de l'environnement, il y a des choses positives qui sortent de l'Union européenne, enfin des apports, oui, positifs. Mais la difficulté... Je pense que par rapport à la vision que l'on a de l'Europe et comment elle se construit, c'est qu'on a l'impression qu'il y a effectivement des pas, on avance d'un pas, deux pas, même dans un certain nombre de domaines, mais tout de suite on est rattrapé par une réalité économique qui casse, qui touche quand même une grosse partie de la population. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des personnes qui s'en sortent très bien, mais il y a aussi de plus en plus de gens qui ont du mal au quotidien à se construire dans cette Europe de la concurrence aussi, parce qu'on leur dit, on leur parle de la concurrence en permanence en fait.
tout le droit de l'Union européenne est fondé sur l'existence d'un marché. Les traités européens existent, ont été créés pour gérer le futur marché que la CE devait mettre en place. Et donc, tous les domaines dans lesquels l'Union européenne entreprend de légiférer, elle ne peut légiférer qu'en disant qu'elle va réguler ou du moins légiférer dans le domaine du marché, y compris le programme Erasmus qui rentre dans le volet formation et préparation à pouvoir s'intégrer au marché économique. Dans les années 90, qui étaient des années de relatif optimisme, où on pensait qu'on pouvait construire l'Europe sociale après le traité de Maastricht, il y a des juristes qui avaient essayé de construire un droit social européen en disant que à partir du droit de la concurrence, on pouvait légiférer, on pouvait de proche en proche légiférer dans le domaine social en attaquant la question par le thème des conditions de production, ouais. Donc des conditions de travail, et à partir de là proposer une vraie législation sociale, mais qui en définitive ne découle que de la prérogative première de l'Union européenne qui consistait à gérer un marché et à légiférer à propos du marché, toujours à propos du marché, si bien qu'en fait la base juridique était tenable, mais politiquement c'était une base qui s'est révélée très faible.
Je pense au discours là du président Macron quand il a été voir donc les ouvriers de la souterraine. Et oui, c'est la souterraine. Hein. Et donc il leur a dit on va voir, mais effectivement vous combattez la délocalisation de votre entreprise. Alors je sais plus si c'était cette entreprise là, enfin bon, mais à côté il faut savoir qu'il y a une entreprise qui vit de l'export. Donc en fait l'Europe est positive pour cette entreprise là. Elle semble pas positive pour vous, donc vous combattez la délocalisation, mais donc ce n'est pas si simple. Donc ce discours de mettre en parallèle comme ça deux entreprises, une qui ferme parce que elle est délocalisée dans une entreprise dans un pays qui a sans doute des conditions de meilleures peut-être en termes de rentabilité financière, hein, pas en rentabilité de travail, hein, j'entends bien. Et puis mettre une entreprise qui vit en France de l'export et qui donc peut-être effectivement a conduit à la fermeture d'une entreprise dans notre pays. Je trouvais ça quand même très très choquant. De la part, je pense qu'il n'était pas encore président quand il voilà, mais c'était quand même choquant de placer en fait l'apport de l'Europe comme cela, c'est-à-dire dans une balance où finalement et chacun fait ce qu'il peut et donc chacun en fait est responsable de sa propre situation.
Mais je pense que là encore on a affaire à des gens dont notre actuel président de la République est un bon représentant, qui n'agissent pas seulement dans leur intérêt, mais parce qu'ils le pensent que c'est bon. Et donc, on se place à un niveau idéologique, en fait. Et c'est ça qui est inquiétant, justement. C'est-à-dire qu'avant qu'ils se rendent compte que ce type de politique produit des effets sociaux dévastateurs et peut-être bientôt des effets politiques dévastateurs, il se passera du temps.
On retrouve le côté des employés modèles qui creusent leur tombe, ou du moins écrivent leur lettre de licenciement, si on veut, dont on parlait tout à l'heure. Mais pour revenir un peu, parce qu'on voyait le manque de solidarité, contrairement à l'imaginaire qu'on peut se faire d'une communauté, et on entend souvent quand même parler des fonds européens. Donc on a l'impression qu'il y a une capacité redistributive énorme. Puis comme on le voit, les nouveaux pays qui n'étaient pas spécialement riches, qui sont arrivés, ont quand même fait des sacrifices, donc c'est pas une réalité pour tout le monde. Et donc ces fameux fonds européens, dont on a l'impression que c'est une manne distribuée...
Ces fonds européens ne pèsent pas grand chose. Ces fonds européens ne pèsent pas grand chose. Hein. C'est quelques pourcents du PIB des États. Il existe un budget européen qui est produit à partir des contributions des États et qui sert principalement à deux choses. à financer les subventions agricoles et à financer la politique des aides régionales. Alors je ne dis pas que ça n'a pas d'effet sur le terrain et que dans certains cas ça ne peut pas effectivement aider des régions ou améliorer des situations locales. Il faut juste en fait le mettre en perspective. En sciences politiques, on apprend qu'il y a deux types de politiques dans l'histoire de l'Union européenne. Il y a les politiques dites d'intégration positive et les politiques dites d'intégration négative. Les politiques d'intégration positive sont des politiques qu'on décide de mener pour atteindre certains objectifs qu'il faut financer. C'est l'exemple de la politique agricole commune pour laquelle il existe un budget, ou alors de la politique régionale pour laquelle il existe un budget. Et en fait, ce sont les deux principales et seules politiques de l'Union européenne. Alors après, il y a aussi des aides dans le domaine de l'éducation, de la recherche, mais qui finalement ne pèsent pas très lourd par rapport aux budgets nationaux. Et puis il y a des politiques d'intégration négative qui consistent non pas à mettre en place des politiques, mais à édicter des règles qui interdisent, qui suppriment, qui poussent à lever des barrières. Et ces politiques-là ont un avantage, c'est qu'elles ne coûtent rien par rapport aux politiques d'intégration négative qu'il faut financer par un budget, avec souvent des États qui sont très réticents à alimenter le budget de l'Union européenne. Et donc ces politiques d'intégration négative, elles ont historiquement été toujours privilégiées par les institutions européennes, par la Commission européenne, parce qu'elles sont mieux reçues par les États qui n'ont rien à payer. Et par contre, ce sont elles qui produisent les effets les plus forts. Parce que ces politiques d'intégration négative, c'est justement la mise en place d'une zone de libre-échange, puis ensuite d'un marché commun, et qui finissent par avoir de vraies conséquences économiques, même si elles n'ont rien coûté à l'origine. Elles sont politiquement beaucoup plus faciles à mettre en place.
Et puis les conséquences se voient plus tard, parce qu'elles ont des conséquences sociales.
Exactement.
Et pour... Peut-être pour terminer, évoquer les perspectives. Là, quand on évoquait un imaginaire qui accroche de moins en moins, il y a une époque, on parlait de 2005, où on se disait l'Europe, on peut la changer. On a des discours où on est plutôt l'Europe, il faut en finir. Donc est-ce qu'il y a encore quand même des perspectives sur une Europe à changer?
Moi, quand j'avais milité en 2005, à l'époque du TCE, on avait un petit livre qui s'appelait « Face aux crises, une autre Europe ». Donc, on militait pour une autre Europe. Et puis, dans l'association où je milite, qui est ATTAC, au début des années 2000, il y a un petit livret qui est sorti, où là, on ne parlait plus d'une autre Europe, mais ça s'appelait « L'Europe à qui tout double ». Donc déjà, on a l'impression que l'idée d'une autre Europe s'éloignait. Et le dernier livre, je dirais, qui synthétise un peu les idées d'ATTAC sur l'Europe, s'appelle « Que faire de l'Europe ? Désobéir pour reconstruire ». Donc en fait, on est dans une démarche de plus en plus défiante vis-à-vis des institutions européennes telles qu'elles existent. Et même si on regarde des projets comme celui de Thomas Piketty, qui est un projet assez intéressant, ce sont des projets qui ne se pensent pas comme des projets de réforme des institutions existantes, mais comme un projet qui s'ajouterait aux institutions déjà existantes, parce qu'on considère qu'en fait les institutions existantes ne sont pas réformables telles qu'elles sont. Elles sont verrouillées, elles sont bloquées, et que toute réforme ne peut se faire que de l'extérieur.
Ça voudrait dire qu'on ajouterait des mécanismes de compensation en parallèle ?
Alors l'idée qui a été formulée par Thomas Piketty, et dont on a entendu parler au moment de la campagne présidentielle, c'est l'idée de mettre en place un nouveau traité qui s'ajouterait au traité précédent, plutôt que de réformer les traités actuels, ce qui présupposerait l'unanimité. Là, il s'agirait d'un traité qui pourrait être signé seulement par la moitié des pays, 70% de la population, et qui ajouterait des compétences à l'Union européenne plutôt que de décider des compétences qui existent déjà, parce que, encore une fois, ça demanderait l'unanimité sur les compétences déjà existantes. Et ce traité mettrait en place une assemblée dans laquelle on trouverait des représentants nationaux. Alors là aussi, c'est intéressant, parce qu'il ne s'agirait pas de représentants élus spécifiquement pour le niveau européen comme les députés européens, mais des représentants élus au niveau national et qu'on enverrait avec un mandat particulier au niveau européen. Donc on voit bien la défiance qu'il y a pour le niveau européen dans cette disposition. À cette assemblée, on donnerait des compétences économiques et sociales. Elle pourrait mettre en place des politiques. Donc là, on serait dans une perspective, dans une démarche d'intégration positive, avec un budget qui serait financé par l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Et ça, c'est une idée très intéressante, parce que l'impôt sur les bénéfices des sociétés, c'est justement un exemple de ce qu'on appelle le dumping fiscal en Europe. Les États sont tout le temps en train de le baisser, et donc pour rester compétitif, chaque État est obligé, au bout d'un moment, de le baisser lui-même, et si bien que tendanciellement, on arrive à une baisse générale de cet impôt, ce qui mine les finances des États. Alors que si on avait un impôt sur les bénéfices des sociétés unique, non seulement on pourrait le fixer suffisamment haut, on aurait un budget à partir duquel on pourrait mener des politiques et on aurait réglé ce problème du dumping fiscal en Europe. Donc voilà, ces idées, elles sont intéressantes et elles ne sont pas du tout contradictoires avec celles d'un autre candidat qui était Jean-Luc Mélenchon aux élections présidentielles. Parce qu'en fait, tout ce qui était recherché par Mélenchon dans son programme qui consistait à mettre en place un protectionnisme européen, mettre en place une législation sociale et écologique, stopper la libéralisation et la privatisation des services publics, ce ne sont pas tant des politiques que des objectifs. Et ces objectifs auraient pu être atteints dans le cadre institutionnel proposé par Piketty. Donc là, il y avait une large convergence. Ce qui est intéressant, c'est que cette réforme ne prétend pas réformer les institutions européennes comme elles existent. Elle prétend en fait ajouter de nouvelles institutions. Et c'est ça qui est, je trouve, intéressant. Ça dit quelque chose de l'histoire de ces institutions. On est à la fin d'une époque.
Mais tu penses vraiment qu'il faudrait quand même conserver les anciennes et avoir quelque chose en plus.
Moi, je ne sais pas quoi penser spécialement sur cette question. Je trouve ça intéressant que aujourd'hui, les projets pour une autre Europe n'aient plus l'ambition
de la réforme.
Les institutions européennes telles qu'elles existent. Quand je militais après 2005 à Attac, on était pour une constituante européenne. On voulait refonder l'Europe. On avait des projets radicaux d'assemblée constituante européenne. On écrivait des projets de constitution. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, on a totalement abandonné ces idées parce qu'on voit bien que le système entier est verrouillé. Et quelqu'un comme Piketty me semble avoir fait le même constat. Et que si réforme il y a, elle ne peut se faire que de l'extérieur, en plus des institutions déjà existantes. Et si ça n'est pas possible, peut-être qu'on va tout simplement vers l'implosion du système.
Mais ça veut dire qu'il faut que ces nouvelles structures qui viennent s'ajouter soient portées par une majorité de citoyens, parce que sinon elles pourront pas fonctionner. Enfin, je vois pas comment on peut articuler différentes institutions sans qu'il y ait. On va rajouter une structure de plus, mais pour le citoyen, est-ce que ça sera pas encore plus compliqué de s'inscrire dans cette démarche? Enfin, moi j'ai quand même du mal à l'imaginer. Et je comprends bien que c'est une idée qui permet d'envisager une autre Europe, en fait, avec une structure simplifiée, avec de vrais projets, etc. Mais en même temps, comment la mettre en place, quoi? Comment peut-on la faire porter par... il faut qu'elle soit portée par un maximum de citoyens.
Oui, je reviendrai là-dessus. C'est pour ça que je te posais la question là tout à l'heure. C'est qu'à l'adhésion, parce que la solution que tu trouves intéressante, elle est quand même basée sur un constat d'échec fort. Ah, donc c'est comment on peut... recréer du positif en partant de...
Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'on ne met pas en place une commission européenne ou alors un conseil quelconque, on met en place une assemblée. Et une assemblée a un fonctionnement beaucoup plus transparent qu'un Conseil des ministres ou que la Commission européenne. Donc je dirais que, par essence, il y a des potentialités démocratiques plus intéressantes dans un fonctionnement par assemblée que dans un fonctionnement par commission ou par Conseil des ministres. Et puis ensuite, les questions que vous posez renvoient à de la stratégie, c'est-à-dire à de la stratégie, à des rapports de force nationaux.
La remobilisation citoyenne.
C'est ça, mais c'est très difficile parce qu'en fait, aujourd'hui, l'Union européenne et les alternatives institutionnelles au niveau européen sont mises dans le même sac par une majorité de la population, puisque tout ce qui se passe au niveau européen est vu avec méfiance, parfois avec hostilité, et ça a fini par toucher même les projets institutionnels alternatifs.
On revient au problème de la non-existence d'un espace citoyen au niveau de l'Europe.
Je dirais qu'il est embryonnaire. Il ne faut pas oublier que quand on a proclamé la Première République en France en 1792, il y avait 40% des gens qui parlaient français. On sortait de 300 ans d'Ancien Régime. On a connu ensuite trois guerres civiles. Donc les nations ne se sont pas construites en un jour. Et je dirais que l'état normal des êtres humains, c'est d'avoir plusieurs niveaux d'identification. Il est normal d'être national et européen et régional. Il n'est pas normal de ne se reconnaître que dans un seul cas, un seul niveau d'identification qui serait la nation. Ça c'est l'historien qui vous le dit.
Et c'est positif. Et c'est, donc ça veut dire qu'il faut que nous nous remobilisions, nous, citoyens, ATTAC et autres, pour donner envie d'avoir de nouveaux projets européens.
Voilà.
Au-delà de frontières, ça.
Voilà. Et il faut se dire que dans le temps long, c'est normal de vivre dans des entités politiques qui ont plusieurs niveaux.
Belle conclusion.
Et on comptera sur les petits Erasmus.
Oui, je voulais juste dire que sur le... Je vais rester dans l'Europe, mais en parlant transactions des taxation des transactions financières, puisque je vous invite à aller à vous mobiliser, d'aller voir sur le site d'ATTAC France, attaque.org, la pétition qu'il y a sur justement le fait que Monsieur Macron a demandé le report de la discussion européenne sur la taxe sur les transactions financières, la TTF. Donc c'était une des mobilisations initiales d'ATTAC, donc c'est important. Et je rappelle que cette taxation sur les transactions financières, si elle est réalisée, elle devrait servir aussi à la transition énergétique, à la transition écologique. C'était dans les projets, justement, peut-être, dans ces beaux projets portés par l'Europe sur la transition écologique. Donc, allez signer cet appel sur ATTAC France.
Et on vous remercie, on remercie surtout Michel, et on se retrouve dans 2 semaines. Alors là, on part au Brésil avec un retour de diverses personnes en différents contextes pour parler des paysans sans terre du Brésil.
Qui vous promet de